Eh bien non, aujourd'hui en France, on consomme surtout du gaz et du pétrole qui sont importés et qui émettent beaucoup de CO2, pour se déplacer ou se chauffer par exemple.
Et l'électricité là-dedans?
En France, elle est légère en CO2 et produite localement. L'objectif, c'est donc de remplacer les consommations de pétrole et de gaz par de l'électricité pour réduire progressivement notre empreinte carbone tout en renforçant notre souveraineté. Plus d'électricité, plus de local et moins de CO2.
D'accord.
C'est ça la transition énergétique. Remplacer les énergies fossiles par de l'électricité produite en France et légère en CO2.
Merci Géraldine.
On en parle. Bilan 2024 RTE. Plus d'infos sur edf.fr/climat. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Cet été, Aix-en-Provence devient la grande scène dédiée à Paul Cézanne. Un univers de couleurs et de douceur à parcourir dans la Provence natale de Cézanne en visitant son dernier atelier, sa demeure familiale du Jas de Bouffan et l'exposition événement du musée Granet d'Aix-en-Provence. Des joueurs de cartes aux baigneuses, de ses autoportraits à ses natures mortes, admirez plus de 130 chefs-d'œuvre venus du monde entier du père de l'art moderne. Réservez vos billets sur cezanne2025.com.
Heures, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, nous nous évadons ce soir au Danemark, dans la ville d'Aalborg, c'est au nord du pays, où Joshua Weilerstein a dirigé en mai dernier un formidable spectacle autour des 7 péchés capitaux de Kurt Weill, spectacle qu'il reprendra les 8 et 9 juillet à Lille avec son Orchestre National de Lille, et cela dans le cadre des Nuits d'été. Nous en parlerons ce soir avec le chef américain et quelques-uns des artistes associés à cette production. Avant cela, comme chaque soir, notre tour d'horizon de l'actualité musicale. Daniele Gatti vient d'être nommé à la direction musicale du théâtre du Mai Musical Florentin. Il entrera en fonction à partir de la saison 2026-2027. Une nomination qui apparaît comme la suite logique d'une longue collaboration du chef italien avec l'orchestre de l'Opéra de Florence, où il avait déjà occupé la fonction de chef principal aux côtés de Zubin Mehta. C'est à lire sur le site et sur l'application de Radio Classique, un article de Philippe Co. On parlera de théâtre musical tout à l'heure avec les 7 péchés capitaux de Weill, un genre que le Théâtre du Châtelet met particulièrement à l'honneur sous l'impulsion de son directeur Olivier Py. Alors la prochaine production dans ce genre, ce sera l'histoire du soldat de Stravinsky sur un texte de Ramu, un spectacle associant les arts du cirque et du cabaret dans une mise en scène de Karel Pruniaux avec un petit ensemble instrumental dirigé par Alizé Léon, mais aussi des comédiens et des membres de la compagnie de cirque Préau-Coupé pour une relecture qui s'annonce pertinente de ce pacte faustien. L'histoire du soldat, ce nouveau spectacle du Théâtre du Châtelet, c'est à découvrir cette semaine, jeudi, vendredi et samedi. Et on termine ce panorama de l'actualité musicale avec du piano, le piano de David Frey. Il sera en récital le 25 juin au Théâtre des Champs-Élysées, dans un programme assez inédit, avec des pièces aux accents baroques signées Royer, Scarlatti, Couperin ou encore Rameau, mais aussi des transcriptions d'œuvres de Bach ou encore de Wagner. Et on écoute ce soir justement David Frey jouer quelques notes de Bach, l'un de ses compositeurs fétiches. Un extrait de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach par David Frey. David Frey qui sera en récital le 25 juin au Théâtre des Champs-Élysées.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Les nuits d'été, ce sont les derniers rendez-vous de la saison de l'Orchestre National de Lille avec son public. Alors elles se tiendront les 8 et 9 juillet au Casino Barrière de Lille et seront placées sous le signe du cabaret des années 20 avec au cœur du programme une œuvre emblématique de Kurt Weill appartenant à ce genre du théâtre musical, Les Sept Péchés Capitaux. Dernière œuvre de Weill sur un texte de Brecht, une œuvre moins connue que l'opéra de Katsu, mais dans la même veine, sarcastique, anticapitaliste, sur une musique à la fois populaire et élégante. C'est Joshua Weilerstein qui dirigera cette partition dans le cadre d'un véritable spectacle avec mise en scène et vidéo. Un spectacle qu'il a créé il y a quelques semaines, c'était en mai dernier à Aalborg, dans le nord du Danemark, à la tête de l'Orchestre symphonique d'Aalborg, dans la sublime Musikenshus, l'une des plus belles salles de concert du pays. Et c'est là-bas que je suis allée le rencontrer pour parler justement de ce spectacle. On écoute Joshua Weilerstein qui nous éclaire tout d'abord sur ses liens avec cet orchestre symphonique d'Aalborg dont il est depuis 2 ans le chef principal.
C'est une de l'orchestre plus grand en Danemark, avec une salle magnifique. Musikenshus, c'est une salle que tous les orchestres dans le monde, comme le Berlin Philharmonic, Chicago Symphony, qui fait des tournées en Europe, viennent à Musikenshus. Donc, c'est une asset pour la communauté. Et c'est un orchestre pas très grand, c'est 65 musiciens, mais avec un son très élégant, avec un enthousiasme pour la musique très bien, et je suis très heureux ici.
Alors, ce spectacle, c'est votre première coproduction avec vos deux orchestres, Aalborg et Lille. Est-ce que vous avez envie, justement, de tisser des liens entre ces deux orchestres?
Oui, c'est bien pour moi de faire les deux mêmes œuvres, une à Aalborg, une à Lille. Mais aussi, pour moi, c'est très important pour les orchestres dans le monde de collaborer beaucoup, de faire les collaborations entre Danemark et France. C'est pour moi, c'est le but de la musique.
Alors cette collaboration, c'est autour de l'œuvre de Kurt Weill, Les Sept Péchés Capitaux. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Kurt Weill, vous qui connaissez bien la musique du XXe siècle? Comment le situer à la fois par rapport à la musique européenne et la musique américaine?
Oui, c'est entre les deux. C'est très intéressant parce que dans les années 20, il était populaire, mais il y avait beaucoup de critiques sur Weill parce que c'était pas atonal comme Schoenberg, c'était pas avant-garde. Mais il a essayé de faire une autre chose. Et quand il arrive aux États-Unis, il échappe les nazis, il a des critiques parce qu'il écrit pour Broadway. Mais la musique, c'est très, très, très sophistiqué. La collaboration avec Brecht, c'est très intéressant parce que Brecht était très politique, très socialiste, anti-capitaliste avec le texte. Mais pour Weill, c'était plus important d'avoir une tragédie humaine. Et donc, on a les deux avec cette œuvre, cette Péchés Capitaux. Mais avec Weill, c'est une grande mélange de cabaret, de jazz, de musique classique. Il était vraiment un génie avec les mélanges, et il a créé une œuvre, Les Sept Péchés Capitaux, qui est dévastatrice. Vous allez voir une femme qui perd son âme, mais avec une musique très élégant et très un peu sarcastique et ironique. J'ai dit à l'orchestre, C'est un mélange de l'intensité et l'émotionnalité de Mahler, l'ironie de Prokofiev et le lyricisme de Gershwin. Et c'est avec toutes les choses. C'est très intéressant parce que la musique est très beau. Et si vous n'avez pas le texte, c'est comme Gershwin. Mais avec le texte et avec une chanteuse comme Bella Adamova, qui est une chanteuse magnifique pour cette œuvre, vous pouvez comprendre le texte et la relation entre le texte et la musique. Parce que c'est pas toujours le même. Mais par exemple, elle va dire « We are one heart and one savings account ». Et il y a beaucoup d'ironie dans le texte. Mais la musique, c'est toujours beau. Avec les choses un peu grinçantes aussi.
Et en même temps, une œuvre qui paraît assez contrastée. Est-ce que pour chacun des péchés, quelque part, Kurt Weill a adapté un style particulier, des références particulières, parce qu'on entend à la fois du choral, de la valse, du foxtrot?
Oui, par exemple, le mouvement Gluttony, la gourmandise, il y a une a cappella, barbershop quartet, très drôle et aussi avec beaucoup d'ironie, un peu comme Shostakovich, Prokofiev. Et dans le mouvement Pride, il y a une valse un peu viennoise, un peu américaine, un peu entre les deux. Et c'est toujours avec une épice d'ironie.
Le début du prologue des sept péchés capitaux de Kurt Weill dans un tout récent enregistrement qui vient de paraître sous le label LSO Live avec Simon Rattle à la tête du London Symphony Orchestra et Magdalena Kojenda dans le rôle d'Anna. Les sept péchés capitaux, mais cette fois-ci dans une version en anglais, ce sera au programme des Nuits d'été de l'Orchestre National de Lille les 8 et 9 juillet, avec cette fois-ci la mezzo-soprano Bella Adamova et la danseuse Jess Gardolin pour incarner les deux Anna, deux personnages qui n'en font qu'un, puisque cette œuvre est basée sur la notion de péché, mais aussi sur celle de la dualité. Alors elle fait l'objet ici d'une mise en scène et de dispositifs visuels, vidéo, réalisés par Sandra Preciado et Marzio Picchetti, qui nous invite à travers une référence aux réseaux sociaux à réfléchir sur la société d'aujourd'hui entre superficialité et authenticité. Sandra Preciado et Marzio Picchetti nous éclairent justement sur leur démarche.
The idea was born from this.
L'idée est née du concept selon lequel le spectacle présente une personne divisée en deux personnalités distinctes ou parties de sa personnalité. et combien ceci est révélateur de nombreux aspects de nos vies, et surtout très actuel dans le monde des réseaux sociaux où nous ne présentons qu'une petite part de nous-mêmes, qui prétend être nous-mêmes, créant une personnalité destinée à plaire au public qui consomme ce type de réseaux sociaux. Et cela peut devenir tout à fait irréel, voire superficiel.
Pour nous, c'était très important de faire voir l'œuvre dans un état des jours d'aujourd'hui. Et donc, on a décidé de mettre en scène visuellement aussi quelque chose que ça peut nous reconnaître à les réseaux sociaux, mais en même temps dans une théâtralité et dans une façon visuelle que ce ne sera pas seulement les réseaux sociaux, mais où on peut s'identifier sur différents niveaux.
Oui, parce qu'à la base, cette œuvre qui a été créée il y a presque un siècle, elle avait une dimension politique, anticapitaliste. Votre interprétation, elle correspond au monde d'aujourd'hui, à notre perception des péchés capitaux d'aujourd'hui?
Yes, the...
Oui, notre interprétation de ces thèmes, dans cette œuvre, s'articule principalement autour de la manière dont les besoins fondamentaux de l'être humain sont perçus, parfois jugés de l'extérieur comme autant de péchés. Mais en réalité, ces péchés, entre guillemets, ne sont que l'expression de notre humanité profonde. C'est le regard extérieur qui les érige en faute, qui les étiquette et les normalise en tant que telles. C'est donc notre point de vue, mais comme vous le dites, il y a plusieurs thèmes dans cette pièce. Et je pense que, tant dans la musique que dans les paroles et dans la mise en scène, vous trouverez des commentaires sur toutes les autres situations dont on parle.
Et sur le plan des vidéos, ces vidéos que vous avez imaginées à Marzio Picchetti, vous vous êtes inspiré justement du monde des réseaux sociaux?
On s'est inspiré avec Sandra et tout le team, avec Manuel Pacific et Jess Gardolin, au niveau personnel, d'essayer de transporter la dualité de cette pêche capitaux dans une façon où ça transpire le vidéo en blanche et noire, parce qu'on ne voulait pas ajouter encore du couleur, qui s'est déjà donné par la musique et par la chanteuse et la danseuse en stage. Et donc, on a décidé de créer cette dualité, surtout en utilisant le blanc et le noir.
Des vidéos en noir et blanc projetées sur un tulle qui donne cette transparence. Et à côté de cela, quatre hommes sur un canapé avec un éclairage très vif, très cru.
Oui, exactement. On voulait donner exactement la dualité des choses. Donc, encore une fois, on a joué pour le tulle cette dualité avec aussi les ombres de la danseuse, de la chanteuse sur scène. Mais en même temps, l'autre côté, on a décidé ensemble avec Sandra de créer cette canapé, cette hors de temps. Donc, on a essayé de trouver un canapé, une situation d'une petite maison américaine des années 60-70, qui c'est un peu les années difficiles de l'architecture, du design, pour donner vraiment quelque chose de cru et ensemble à la lumière, de vraiment transporter la famille dans cet endroit comme Brecht a écrit.
Alors Sandra Preciado, comment avez-vous traité cette dualité, puisque ce personnage d'Anna, il est double, il est représenté par une chanteuse et une danseuse qui représentent deux facettes d'un même personnage. Qu'est-ce que cette dualité vous a inspiré?
Le fait que cette pièce soit écrite de telle sorte que la chanteuse incarne la partie pensante est essentiel. Ainsi, la partie qui chante et prononce les mots est celle qui aspire à se produire pour le monde extérieur. La partie dansante d'Anna, Anna 2, représente quant à elle la part intérieure, l'âme en mouvement. Elle s'exprime à travers la danse, son mode d'expression privilégié. D'ailleurs, elle ne parle que très rarement durant le spectacle. Son expression dans ce monde passe par les mouvements. Et cette dualité est belle au sens artistique, n'est-ce pas? C'est une sorte d'interprétation de ce que nous ressentons. Nous sommes mus par une chose, mais la pensée se tourne vers quelque chose de différent. À la fois notre chanteuse Bella Adamova et notre danseuse Jess Gardolin, qui est aussi notre chorégraphe, sont absolument remarquables, même si elles ne se sont rencontrées qu'il n'y a qu'une semaine ici à Aalborg, comme si elles ne formaient qu'une seule personne. personnes. Leur travail est absolument fantastique.
Et quel défi, mais quel plaisir aussi, ou quelle difficulté, représente le fait de mettre en scène un spectacle avec une danseuse, des chanteurs et un orchestre sur scène?
C'est un énorme défi. Nous sommes presque des invités au sein de cet orchestre. Même si nous sommes animés d'espoir et de rêve, en tant que créateurs du spectacle, nous devons respecter aussi les connaissances et les habitudes de l'orchestre. Nous pouvons repousser les limites, mais pas excessivement non plus. C'est une danse très délicate que nous faisons avec les musiciens.
Et vous allez changer, développer quelques éléments de la vidéo pour Lille?
On va développer surtout la côté de l'espace par rapport à la difficulté qu'on a dans une music hall. À Lille, on est dans un casino, dans un théâtre, donc déjà on rentre dans un domaine qu'on connaît mieux les deux, parce qu'on vient les deux du théâtre et du cirque. Et donc bien sûr, on a comme créé comme trois espaces, donc ça va être l'espace central pour l'orchestre et ça va être comme un corridor qui lie les deux espaces. Donc à côté jardin, on va voir la famille, et à côté cour, on va voir l'écran et les anas. Donc les voyages dans les sept pêches capitaux, ça va être plus facile et ça va être beaucoup plus compréhensible aussi pour le public, et ça va être cette ère de cabaret d'été, ça va donner l'envie de vraiment le voir.
Avarice, un nouvel extrait des sept péchés capitaux de Kurt Weill, toujours dans l'enregistrement de Simon Rattle avec le London Symphony Orchestra. Rendez-vous donc les 8 et 9 juillet au Casino Barrière de Lille pour découvrir ce spectacle original autour des sept péchés capitaux dans une version en anglais sous la direction de Joshua Weilerstein, et avec en première partie de spectacle des chansons de cabaret qui seront interprétées par Isabelle Georges, mais aussi Le Bœuf sur le Toit de Darius Milhaud, avec également la participation pour présenter ce spectacle d'Alex Vizorek.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Ces spectacles clôtureront donc la première saison de Joshua Weilerstein en tant que directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Il revient justement à notre micro sur ses premiers moments forts avec l'orchestre.
Chaque concert était différent, était très profond pour moi, la relation avec l'orchestre et avec un répertoire totalement différent, le Shostakovich, le 13e symphonie de Shostakovich, le 5e symphonie de Mahler, la musique française et américaine, et maintenant les nuits d'été. J'ai dit à l'orchestre, si on commence comme ça, je suis ravi pour le futur avec l'orchestre. Et aussi, particulièrement après, on revient à notre salle, the sky is the limit.
La saison prochaine, ce sera une saison itinérante pour l'orchestre, puisque le nouveau siècle a fermé ses portes. Quel défi cela représente pour un orchestre et pour un chef de devoir s'adapter à différentes salles, différentes acoustiques, plus ou moins généreuses?
Oui, c'est un défi pour tous les orchestres. Mais s'il y a un orchestre qui peut faire le mieux avec cette situation, c'est l'Orchestre national de Lille. Parce qu'on a l'expérience de jouer dans toutes les salles en région Hauts-de-France. Et je pense que l'orchestre va s'adapter immédiatement à notre acoustique différente. C'est un défi de garder notre son, parce qu'on répète dans une salle différente que les concerts. Et c'est un grand défi pour un orchestre. Mais je pense que l'attitude de l'orchestre est positive pour les prochaines années, la prochaine année. Et je pense on va être très heureux de revenir au nouveau siècle, mais pour cette année, on fait le mieux possible.
Joshua Weilerstein, un chef qui a su créer une relation très forte avec ses musiciens, comme me l'a confié Fabio Sinacori, le directeur de la programmation de l'Orchestre National de Lille.
Alors, ça fait un an, ça va faire un an maintenant qu'il est directeur musical. Les musiciens l'aiment beaucoup. Joshua se sent très, très à l'aise avec les musiciens. Joshua, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui demande beaucoup. Il sait ce qu'il veut et il va aller jusqu'au bout. Et ça, les musiciens commencent à le comprendre et ils adorent. Les musiciens, je parle des musiciens, je parle des nôtres parce que c'est ceux avec lesquels nous travaillons, mais je dirais que les musiciens ont envie de travailler en général et d'aller plus loin. Après, il faut que devant eux, il y ait la bonne personne, qui ait les moyens techniques, qui ait les moyens intellectuels, et qui sait surtout où il va et pourquoi il va. Après, le comment, c'est un autre dossier. Et ils le sentent. Et c'est une relation, pour l'instant, qui fonctionne très bien. On dit souvent que, on appelle ça lune de miel dure 100 jours, ben là, c'est plus que 100 jours. Ça fait une saison. Et l'année prochaine, on va beaucoup travailler avec lui, à cause, évidemment, aussi de ce nomadisme un peu de l'orchestre, voilà. Non, les musiciens ils attendent tous chaque fois qu'il revient, donc c'est bien.
Et quels seront, Fabio Sinacori, les grands axes de cette prochaine saison de l'Orchestre National de Lille avec Joshua Weilerstein?
Évidemment, on ne pouvait pas louper, comme beaucoup d'orchestres, l'anniversaire Ravel, hein, et vous le savez bien, parce que vous allez quand même capter trois concerts autour de ce grand compositeur français, mais Joshua, il y a un répertoire qu'il aime bien partager. C'est tout un répertoire de l'Antarte musique, donc tous les compositeurs dégénérés. Hein. En tant que aussi juif américain, c'est quelque chose qui le touche beaucoup et qui a envie de faire connaître. On le connaît très peu. Et alors sa musique, est-ce qu'il est très américain, notre ami? Aujourd'hui, dire être américain, il faut faire attention, mais il est très américain. Il vit à Londres, évidemment, mais il va souvent aux États-Unis, il a beaucoup de contacts, il a beaucoup de concerts, il a un projet d'un orchestre là-bas depuis très longtemps. Ses études ont été aux États-Unis et sa famille est là-bas et c'est un homme de famille. Et voilà, et donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les grands fresques, les Mahler, les grands Dvorak et tout ça, mais bien sûr que oui, parce que ça fait partie de notre musique classique occidentale, évidemment. Mais il y aura ces incursions de ces compositeurs hein, parfois moins connus, mais franchement, gagnent à être connus.
Thank you.
Un extrait de la 5e symphonie de Mahler par Joshua Weilerstein et l'Orchestre National de Lille, capté en concert par les micros de Radio Classique. C'était en septembre de l'année dernière, au Nouveau Siècle, à l'occasion du concert d'ouverture de la saison de l'orchestre, saison qui s'achèvera donc les 8 et 9 juillet au Casino Barrière avec ce spectacle, les 7 péchés capitaux de Kurt Weill. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathis Alexandre pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Nicolas Dufetel qui nous racontera l'histoire du château de la Motte à Saint-Tropez, histoire liée à Liszt ou encore Wagner. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge sur Radio Classique avec Francis Drezel.
Dans son nouveau hors-série, Le Parisien vous invite à remonter le temps jusqu'au Paris antique, Lutèce. Grâce à l'accès privilégié offert par le pôle archéologique de Paris, plongez dans l'histoire de la ville et découvrez le quotidien des habitants au 1er siècle de notre ère. Vivre à Paris au temps des Romains, un hors-série Le Parisien chez votre marchand de journaux.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec les chefs-d'œuvre des grands compositeurs. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Marc Leroy Calatayud. Le grand concert d'été de Radio Classique animé par Jean-Michel Duez les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
...20h30, 23h, les variations de Francis Drezel.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour ces variations sur Radio Classique et merci à Laure Maison que vous retrouverez bien sûr dès demain 20h pour son journal du classique. En fin de soirée, le disco portrait sera consacré à un très grand chef australien, Sir Charles Mackerras, qui était en fait d'origine américaine, étant né à New York le 17 novembre 1925, mais qui est parti encore enfant avec sa famille à Sydney, où le petit Mackerras, donc, a commencé ses études musicales, d'instruments à vent en particulier, avant de se tourner vers la direction d'orchestre et de se perfectionner à Prague auprès du légendaire Václav Talich, ce qui explique sans doute la maîtrise exceptionnelle dont disposait Mackerras pour les musiques tchèques et moraves, nous y reviendrons tout à l'heure. Autre particularité de ce maestro, en tant que grand mozartien, il a beaucoup compté pour Alfred Brendel lorsque ce pianiste a décidé de réenregistrer une fois encore ses concertos de Mozart préférés et Brendel a pu ainsi en graver 8 avec le chef australien qui dirigeait aussi l'un de ses concerts d'adieu à la scène, c'était le 18 décembre 2008, autour du concerto Jeune homme de Mozart. Alfred Brendel s'est encore produit quelque temps, mais il n'est pas revenu sur ses adieux. Je vous rappelle qu'il est né le 5 janvier 1931. Au mois d'août 2004, à Édimbourg, Alfred Brendel enregistrait donc pour la troisième fois le 17e concerto de Mozart. Alors voici ce concerto pour piano et orchestre numéro 17, Köchel 453 de Mozart. Un concerto en sol majeur, composé début 1784, avec l'un des plus beaux mouvements longs de Mozart, l'andante centrale. Écoutons Alfred Brendel et l'orchestre de chambre d'Écosse, dirigé par Sir Charles Mackerras, dans ce 17e concerto pour piano de Mozart. Thank you.